Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, nous revenons sur l'aspect slow de la simplicité urbaine pour parler un petit peu plus en détail du temps et plus précisément de la perception que nous en avons dans la société moderne. Lorsque j'étais étudiante au Japon, j'allais à l'université une vingtaine d'heures par semaine et je travaillais le soir et le week-end dans un restaurant franco-italien. Je me souviens d'avoir vécu une pression du temps pendant ces mois-là, quand je rentrais de l'université vers 15h pour repartir à peine 30 minutes plus tard pour arriver au restaurant avant 17h pour commencer mon travail. J'avais l'impression que le temps me filait entre les doigts, de toujours courir après, de ne jamais pouvoir me poser tranquillement. Ce sentiment vous est familier ? Un jour, alors que je stressais à l'idée de devoir déjà repartir au travail, j'ai pris conscience d'une vérité toute simple, mais à laquelle on ne pense jamais. Des après-midi, j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. Et des matins, et des soirs. En fait, je ne manquerai jamais de temps tant que je suis vivante. Le temps est la seule ressource au monde dont chacun d'entre nous dispose d'exactement la bonne quantité pour toute notre vie. Et c'est aussi la seule ressource face à laquelle nous sommes à égalité. Chacun d'entre nous dispose de 24 heures par jour. Ce qui change d'une personne à l'autre, c'est la manière dont nous utilisons notre temps, que ce soit par choix ou par nécessité, par exemple les longs temps de transport pour aller travailler. Mais il y a autre chose qui change, et c'est notre perception du temps. Le temps est une construction mentale. Le fait de le diviser en jours, en heures, en minutes, c'est quelque chose que la société humaine a créé pour s'organiser. Et vu que c'est une construction mentale, ce que vous pensez du temps va avoir une influence sur vos expériences de vie. Ce n'est pas le temps lui-même, mais votre vision que vous en avez, dont vous manquez, que vous rentabilisez ou gaspillez, dont vous profitez ou que vous perdez. C'est ça qui va avoir une influence sur la qualité de vos expériences de vie. Alors tout ça, c'est un sujet très très vaste, sur lequel nous reviendrons à plusieurs reprises dans Simple et Cité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus précisément de la notion de fabriquer du temps, de l'utiliser comme une ressource, et de choses qui peuvent nous faire perdre du temps versus fabriquer du temps. Comme je le disais plus tôt, nous disposons chacun et chacune exactement de la quantité de temps nécessaire dans notre vie. Dans les faits, nous n'en manquerons jamais, jusqu'à notre dernier souffle. Alors, pourquoi a-t-on parfois l'impression de perdre notre temps, de le gaspiller ou encore de le gâcher ? Il existe autant de réponses que de situations et d'êtres humains à cette question, mais un élément fondamental pourrait être que vous avez l'impression de subir cette situation qui vous fait perdre du temps. Par exemple, si vous devez attendre à l'aéroport ou à la gare parce que l'avion ou le train est en retard, beaucoup auront l'impression de gâcher leur temps à attendre, au lieu d'être en train de voyager et d'arriver à l'heure à destination pour faire ce qu'ils avaient prévu. Vous n'avez pas eu le contrôle sur ce moment-là. À partir de là, si vous agissez de manière délibérée, si vous choisissez consciemment d'utiliser ce temps, peut-être que vous n'aurez plus l'impression de l'avoir gâché. Par exemple, moi qui voyage beaucoup pour le travail, j'ai transformé ces temps d'attente dans les aéroports en bulles privilégiées où je me retrouve seule avec un bon thé et un livre prévu pour l'occasion. Ou alors un bon podcast. Je me ressource, je m'apaise, je prends mon temps. Et c'est là la clé. Je ne gâche pas mon temps à attendre l'avion. Je le prends. Alors maintenant, on va se demander qu'est-ce qui coûte vraiment du temps ? Ce n'est qu'un exemple là, et nous reviendrons sur la notion d'utiliser son temps de manière intentionnelle, ce qui est très différent de vouloir à tout prix rentabiliser chaque minute. Je tiens à le préciser parce que personnellement, ma démarche est une démarche de slow, et non pas de productivité à tout prix de chaque minute de notre vie. Cela étant, certaines choses coûtent vraiment du temps, et d'autres en font vraiment gagner. Mais ce ne sont peut-être pas les choses que vous croyez. Alors les idées que je vais vous présenter là, je les tiens de Brooke Castillo, qui est une formatrice et coach de vie américaine, et qui travaille beaucoup sur ces notions de vivre avec intention, donc si vous parlez l'anglais, je vous invite à découvrir son podcast. Ce qui fait perdre du temps, c'est notamment le fait de s'inquiéter en boucle, de se plaindre, de ressasser, de chercher à plaire à tout le monde, de rester dans l'indécision, de changer d'avis sans cesse et de ne pas avancer, de se juger soi-même ou de juger les autres, de blâmer les uns et les autres pour un fait passé qu'on ne peut pas changer, ou encore de se sentir dépassé par les événements, de se sentir paralysé et de ne rien faire. Ce n'est qu'un exemple, un échantillon de choses qui font perdre du temps, qui sont des choses donc citées par Brooke Castillo dans son podcast. Et beaucoup de ces choses-là, si vous écoutez un petit peu la liste que je viens de vous citer, tiennent de la non-acceptation de la réalité telle qu'elle est. Accepter qu'un événement désagréable a eu lieu ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ou qu'on le sanctionne moralement. Ça signifie simplement qu'on accepte la réalité et que du coup, on peut passer de l'énergie et du temps à chercher des solutions et à appliquer ces solutions plutôt que de ressasser ce qui ne va pas, se plaindre ou se mettre à juger des gens, à se dire que c'est pas normal, etc. par exemple. Encore une fois, c'est une notion qui est vraiment très très vaste, qui est au-delà des sujets abordés par simplicité, mais je tenais à vous soumettre l'idée que les choses qui nous font perdre du temps ne sont pas forcément celles que l'on croit. C'est-à-dire que c'est pas forcément les situations extérieures qui nous arrivent, c'est plutôt ce qu'on en pense et le fait de se battre contre le fait que ces choses ont eu lieu, qu'on le veuille ou non. Pour en revenir à l'exemple de l'aéroport et de l'avion en retard, dans ce cas-là, c'est pas forcément l'avion en retard en lui-même qui vous fait perdre du temps. C'est votre perception de cet événement, votre non-acceptation que l'avion est en retard, à vous dire que s'il avait été à l'heure, vous auriez eu le temps de faire ceci et cela à l'arrivée, alors que là, vous allez arriver tant et tant d'heures plus tard à l'aéroport d'arrivée, et que du coup, vous n'aurez plus le temps de faire ces choses-là. C'est le fait de vous battre contre la réalité, qui est que l'avion est en retard, que vous le vouliez ou non. Le fait, il est là, on ne peut pas le changer, l'avion est en retard. Et le fait de vous battre contre cette réalité, en vous disant que c'est pas normal, et que si vous n'avez pas été en retard, vous auriez eu le temps de faire ci et de faire ça, c'est ça qui vous fait perdre du temps, en fait. Alors que si vous acceptez le fait que l'avion est en retard, que c'est ainsi, même si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec la qualité de gestion du service de votre compagnie aérienne, le fait est que l'avion est en retard et que vous ne pouvez rien y faire. À partir de là, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Peut-être souhaitez-vous prendre le temps de trouver des cadeaux pour vos amis dans les boutiques de l'aéroport, ou de regarder si votre parfum ou le parfum de votre partenaire est peut-être moins cher ici que dans le Sephora du coin. Ou peut-être que vous avez envie de prendre le temps de vous installer dans un coin tranquille pour méditer, pour lire un bon livre, etc. En ayant accepté la réalité, qui est que l'avion est en retard et que vous avez une heure devant vous avant de prendre l'avion, vous pouvez prendre le temps de faire ce que vous avez envie pendant cette heure-là, au lieu de perdre votre temps à vous plaindre du retard de l'avion, à ressasser, etc., etc. Et je pense que cette manière de penser par rapport aux situations imprévues peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup de situations qu'on vit tous au quotidien. La machine à laver qui tombe en panne, les bouchons de circulation, l'attente chez le médecin, chez le coiffeur. Tous les jours, il se passe des situations extérieures qu'on n'a pas décidées, qui bousculent un petit peu nos plans et qui nous prennent du temps, finalement, un temps qu'on n'avait pas prévu de prendre. Vous pouvez vous plaindre que ça vous fait perdre votre temps et puis juger la situation ou juger les gens qui vous ont fait perdre votre temps. Ou vous pouvez décider d'avoir une perception différente, d'accepter que la réalité est telle qu'elle est, d'accepter que la situation n'est pas idéale et vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant que la situation est comme elle est et qu'est-ce que vous pourriez faire de ce temps que vous avez, que vous n'avez pas pu dépenser comme vous le vouliez mais qui est là et que vous êtes là dans la situation dans laquelle vous êtes. Maintenant qu'on a parlé des choses qui peuvent nous faire perdre du temps, on va arriver au cœur de l'émission d'aujourd'hui, comment fabriquer du temps. De la même manière qu'il existe des activités qui nous font perdre du temps, d'autres activités nous en font gagner. Par exemple, si vous organisez votre journée en préparant le temps nécessaire pour faire vos tâches, ni plus ni moins, vous fabriquez du temps en fin de journée pour vous reposer, parce que vous avez planifié les choses, vous avez fait les choses en temps et en heure, et vous arrivez à la fin de journée, serein ou sereine, parce que ce qui était à faire est fait, et vous avez fabriqué ce temps-là en fin de journée pour vous reposer tranquillement. Alors que, si vous vous laissez distraire pendant votre travail, un petit peu de Facebook ici, une pause un peu plus longue qui n'était pas prévue comme ça par là, vous allez finir ces mêmes tâches bien plus tard dans la journée, et vous n'aurez plus le temps de vous reposer. Alors que les pauses trop longues en question que vous avez prises dans la journée, comme vous ne les avez pas prises avec intention, peut-être que vous n'en avez pas autant profité parce que vous vous êtes dit « Ah, je devrais être en train de travailler, j'ai encore ça et ça à faire, je ne devrais pas être en train de faire une pause, mais bon, lalala. » Et toutes ces réflexions-là, ces pensées qu'on a pendant qu'on prend une pause qu'on n'avait pas prévu de prendre, fait qu'on n'en profite pas autant que ce qu'on aurait pu. En quelque sorte, ce qui fabrique du temps, ce sont les décisions et les actions qui vous font reprendre le contrôle sur votre temps, qui vous font utiliser votre temps avec intention. Toujours d'après la fameuse Brooke Castillo que j'ai mentionnée plus tôt, voici une liste non exhaustive de choses qui peuvent vous fabriquer du temps. Prendre des décisions fermes et vous y tenir. Tenir vos engagements vis-à-vis de vous-même. Vous lancer dans l'action au lieu de procrastiner par exemple, ou au lieu de vous informer pendant longtemps sur un sujet sans jamais vous jeter à l'eau et mettre en action les informations que vous rassemblez. Planifier certaines choses et vous tenir à ce plan. Vous restreindre pour diriger votre énergie vers peu de choses mais qui vous font avancer vraiment. Oser échouer, c'est quelque chose qui combat l'indécision. Parce que si vous osez échouer ou si vous envisagez l'échec comme quelque chose qui n'est pas très grave, vous allez vous lancer plutôt que de rester dans l'indécision parce que vous avez peur d'échouer si vous vous lancez. Une autre chose qui peut aider à fabriquer du temps, c'est de dire non aux choses et aux gens dont les activités ne sont pas prioritaires pour vous. En gros, si vous regardez un petit peu cette liste, l'idée derrière toutes ces choses-là, c'est que vous choisissez à l'avance comment vous allez passer votre temps, à un moment où vous avez de l'énergie pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, et vous allez réfléchir aux solutions concrètes pour le faire de manière efficace. Et une fois le moment venu, quand votre cerveau reptilien va préférer rester devant la télé, ce qui fabrique du temps, c'est d'honorer le plan que vous avez fait avant, quand vous aviez de l'énergie et des idées claires. Donc, ce que je suis en train de dire simplement, c'est ce qui vous fabrique du temps, en gros, c'est de décider avec intention ce que vous allez faire de votre temps. Et une fois que vous arrivez à ce moment-là, de vous y tenir autant qu'il vous en est possible, parce que, évidemment, que les imprévus, par définition, on ne peut pas les prévoir. Mais en tout cas, si vous avez prévu de faire quelque chose et que vous êtes dans une situation où vous pouvez le faire, tenez vos engagements envers vous-même. Ça, c'est une notion qui est super importante pour fabriquer du temps, parce que dans notre quotidien, on perd énormément de temps à négocier avec nous-mêmes, à procrastiner, à se dire que finalement, on commencera plus tard, et à avoir des tâches qui planent au-dessus de notre tête, en fait, où on sait qu'on doit le faire, mais qu'on le fait pas, mais qu'on profite pas de la pause qu'on est en train de prendre, puisqu'on est en train de procrastiner et de se dire qu'on devrait être en train de faire autre chose. On en revient à la même chose. Alors, avant d'aller plus loin là-dedans, je voulais vous dire en quoi on peut réfléchir de cette manière-là, donc en termes de planification, en termes de décider avec intention de ce que vous allez faire de votre temps, tout en menant une vie qui est slow, qui est sereine, qui est tranquille, qui est apaisée. C'est-à-dire que lorsque je vous dis prenez une décision, faites un plan et tenez-vous-y, bougez-vous les fesses et sortez de la télé, sortez de la télé, sortez du canapé, peut-être que ce discours-là peut vous paraître assez productiviste, quoi. Un peu comme un espèce de discours de motivation à l'américaine pour rentabiliser chaque 2 minutes de votre temps. En réalité, cela signifie surtout que, plutôt que de vous laisser happer par les distractions ou parce que vos émotions vous disent de faire sur le moment, vous choisissez ce que vous avez envie de faire avec intention et vous vous y tenez. Vous ne vous laissez pas diriger par d'autres personnes, par les priorités des uns et des autres, et vous ne vous laissez pas non plus diriger par vos propres émotions négatives, en fait, et par votre propre procrastination, en quelque sorte. Et lorsqu'on parle de décider avec intention ce que vous faites, vous pouvez tout à fait décider avec intention de prendre votre temps, de ralentir, de vous ménager des moments de pause, etc. Choisir avec intention comment vous dépensez votre temps, ça ne veut pas dire rentabiliser chaque moindre minute de votre vie. Donc l'idée là n'est pas d'être productif à tout prix ou de rentabiliser le temps à tout prix, je dirais plutôt que l'idée est de planifier intelligemment. C'est-à-dire que vous réfléchissez aux solutions quand vous avez l'esprit frais, et du coup quand vous êtes fatigué ou quand vous avez déjà fait plein de choses dans votre journée, vous avez juste à appliquer les décisions que vous avez déjà prises. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer la tête à décider est-ce que je cuis des pâtes, est-ce que je cuis des lentilles, est-ce que je vais au sport, est-ce que je vais à la piscine, est-ce que je vais faire les magasins, est-ce que je reste devant la télé. Non, vous avez déjà décidé ça à l'avance. Vous avez décidé quand est-ce que vous allez faire vos tâches, vous avez décidé quand est-ce que vous allez vous reposer, vous avez décidé quand est-ce que vous allez être avec votre famille, par exemple. Alors quand je dis décider, ça ne veut pas dire que vous vous êtes établi un emploi du temps très strict à la minute près. C'est-à-dire que le fait de décider à l'avance comment vous allez passer votre vie, ça va être à vous de choisir quel niveau de planification vous voulez aller. Vous pouvez très bien dessiner, demain je vais faire les courses, sans vous donner d'heure précise, simplement vous décidez que c'est demain que ça va se faire. Vous pouvez décider que de 14h à 15h vous irez à votre cours de sport quoi qu'il arrive. Et vous pouvez très bien décider, ce projet-là, je commence à m'en occuper la semaine prochaine. C'est-à-dire que le niveau de décision peut être assez vaste, tout comme il peut être très granulaire à l'heure près. On va dire que la mesure d'organisation que vous apportez à votre vie, c'est vous qui prenez la décision de ça. Je ne vous suggère pas d'avoir soudain une gestion militaire de votre temps. C'est pas du tout ça mon idée. Ce qui est intéressant dans cette manière de penser, c'est que, en fait, chaque prise de décision coûte de l'énergie mentale. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, et c'est le cas quelle que soit la décision. Je crois que c'est Daniel Gilbert qui en parle. C'est-à-dire que décider quelle va être la couleur du t-shirt que vous allez porter demain matin vous prend autant d'énergie mentale que de décider si vous allez quitter votre job ou pas. Donc, plus vous pouvez enlever de décisions à prendre sur le moment, donc plus vous prenez de décisions à l'avance, plus ça vous libère de l'énergie mentale pour faire les choses, pour faire ce que vous avez planifié, pour avancer dans vos projets, pour utiliser votre temps. Donc en fait, vous perdrez moins de temps à prendre des décisions puisque vous les avez prises à l'avance et vous gagnez du temps pour faire les choses que vous avez vraiment envie ou vraiment besoin de faire. Pour résumer et pour schématiser, parce que ce n'est qu'une piste de réflexion parmi d'autres que je vous offre dans l'émission d'aujourd'hui, il y a donc deux choses. Vous battre contre la réalité telle qu'elle est vous fait perdre du temps. Ne pas accepter ce qui est, non seulement cause beaucoup de souffrances inutiles, comme le dit Eckhart Tolle, mais cause aussi de sacrées pertes de temps à se plaindre, à ressasser, à juger les uns et les autres, ou à se juger soi-même, et à ne pas être en train de faire ce qui nous tient à cœur pendant qu'on est en train de se battre contre la réalité et à ressasser les choses en se disant que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. A l'inverse, utiliser votre temps avec intention vous aide à fabriquer votre temps. Planifiez vos journées, vous lancez malgré la possibilité de l'échec, mettre en place une mesure d'organisation dans votre vie, prendre des décisions à l'avance pour conserver votre énergie mentale, pour faire les choses importantes au lieu de gaspiller du temps à décider, à hésiter, etc. Toutes ces choses-là vous aident à reprendre le contrôle sur votre temps, à décider comment vous souhaitez le dépenser et à vous y tenir sans vous laisser happer par les distractions involontaires ou par les priorités et les demandes des autres personnes. Je vais terminer cette émission très orientée sur des pistes de réflexion assez abstraites finalement, par des conseils et astuces très concrètes que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour fabriquer du temps. Ce ne sont que des suggestions, des choses que je m'efforce de pratiquer moi-même au quotidien. Donc à vous de décider parmi ces idées-là lesquelles vous paraissent utiles et de décider d'en tester quelques-unes si le cœur vous en dit. Première chose, décidez ce que vous allez faire de votre journée dès la veille. Dans les grandes lignes ou avec le niveau de précision que vous souhaitez, mais prenez bien en compte le temps que prennent les choses pour rester réaliste. Et je vous conseille aussi de ménager vous du temps de battement assez long entre chaque activité pour avoir le temps de passer d'une activité à l'autre sans stresser, de ne pas avoir le temps d'aller chez le médecin ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, planifiez toutes ces choses-là à l'avance. Pourquoi ? Alors déjà, ça vous permet de voir si vous avez vraiment le temps de faire tout ce que vous aviez prévu. Et de prioriser, si c'est pas le cas. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps de tout faire, vous pouvez prioriser qu'est-ce qui va être important à faire demain. Le jour venu, vous allez gagner d'énergie mentale à ne pas tergiverser ou négocier avec vous-même, puisque vous aurez déjà décidé de ce que vous alliez faire. Donc vous avez juste à suivre le flow, en fait, à suivre le programme, vous n'avez plus besoin de décider. Par exemple, si vous avez déjà décidé d'aller au cours de sport à midi, vous n'allez pas perdre de temps à essayer de vous convaincre d'y aller plus tôt demain, puisque la décision est déjà prise. Ensuite, l'autre effet bénéfique de tout ça, c'est que vu que vous avez déjà planifié les choses et que vous savez que vous avez assez de temps pour tout faire, eh bien, vous êtes beaucoup plus zen quelque part, même si vous avez des contraintes, etc. Vous allez être beaucoup moins stressé parce que vous savez que vous avez prévu assez de temps pour tout. Donc quand vous prenez une pause dans la journée, vous allez pouvoir la prendre de manière plus sereine parce que vous savez que vous n'avez pas une liste de tâches qui vous flotte au-dessus de la tête, puisque cette liste de tâches, vous avez prévu le temps de le faire au cours de la journée. Donc ça, c'était le premier conseil, décidez ce que vous allez faire de votre journée dès la veille. Le deuxième conseil, c'est oser dire non. Chaque personne place ses propres priorités avant les vôtres, et c'est bien naturel. Par exemple, au travail, chacun a ses propres urgences. Si votre supérieur vous en demande trop à la fois, si vous êtes dans le cadre d'un emploi salarié avec un supérieur, osez lui dire que vous n'aurez pas le temps de tout faire à temps, si il veut que vous le fassiez avec un niveau de qualité optimal. Donc demandez-lui, si c'est lui qui vous a, lui ou elle, hein, qui vous a donné toutes ces tâches, demandez-lui quelles sont les tâches les plus prioritaires, de manière à ce que votre manager puisse vous dire, bon ben ça c'est plus prioritaire, fais ça d'abord. Et de manière générale, pour avoir été manager de stagiaire, c'est généralement plutôt bien vu que de voir qu'un employé est capable de gérer son temps et se rend compte qu'il n'aura pas le temps de tout faire et qu'il demande une mesure de priorité de la part de son ou sa manager. Ensuite, pour les autres personnes, donc tous les contextes hors hiérarchie, que ce soit pro ou perso, si quelqu'un vous demande de faire, si quelqu'un vous impose ses priorités, ses urgences, mais que c'est pas urgent pour vous, ou si quelqu'un vous demande de participer à des activités ou à des choses qui vous font pas si envie que ça finalement, surtout dans le contexte perso, si vous avez pas envie de faire quelque chose, c'est vous qui êtes à la barre de votre propre temps. Donc osez dire non à cette personne et osez le faire sans vous justifier. Vous n'êtes pas là pour vous plier aux priorités ou aux désirs des autres. Si c'est quelque chose qui ne fait pas partie de vos priorités, si ce n'est pas un engagement qui vous paraît juste de prendre, ne prenez pas cet engagement. Donc osez dire non. Troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est, et c'est un des plus importants peut-être de tous les conseils de cette émission, tenez vos engagements vis-à-vis de vous-même. C'est un point qui est hyper important et qui n'est pas simple à mettre en place, hein, je suis la première à le reconnaître. Déjà, c'est hyper important pour votre confiance en vous-même, parce que le fait de tenir vos engagements vis-à-vis de vous-même vous entraîne à vous voir vous-même comme une personne de confiance et comme une personne qui tient ses engagements, du coup, vis-à-vis de vous-même. Donc ça aide énormément sur la confiance en vous, mais c'est aussi ce qui vous permet de vous tenir à ce que vous avez prévu de faire et donc d'utiliser le temps de manière intentionnelle, comme vous aviez prévu d'utiliser votre temps, et donc de fabriquer du temps. Je vous invite à découvrir les 4 tendances de Gretchen Rubin, qui est l'autrice du livre « Ma vie en mieux ». En fait, elle a imaginé 4 tendances, alors 4 tendances de personnalité, 4 tendances de caractère, qui sont juste un aspect de notre personnalité, hein, c'est pas un test de personnalité complet, pour ainsi dire. C'est simplement une sorte de test qui permet de voir comment est-ce que vous réagissez face aux attentes externes, donc aux attentes des autres personnes, et comment vous réagissez face à vos attentes vis-à-vis de vous-même. Et en fait, elle a 4 profils différents. Et en fonction de votre profil, ça va pas être les mêmes astuces qui vont fonctionner pour vous faire tenir vos engagements. Donc si le concept vous intéresse, je vous invite à découvrir ce livre « Ma vie en mieux » et à essayer de trouver quelle est votre tendance. Je sais pas si le quiz pour les tendances existe en français, mais le livre qui présente les tendances « Ma vie en mieux » existe en français. Et en fait, le fait de comprendre quelle est votre tendance et de regarder un petit peu les conseils qu'elle donne, peut-être que ça peut vous aider à trouver des trucs et astuces pour tenir vos engagements vis-à-vis de vous-même si c'est quelque chose que vous avez de la peine à faire au quotidien. Par exemple, je suis personnellement dans la tendance qu'elle appelle questionneur, et du coup, j'ai découvert grâce à Gretchen Rubin que j'ai absolument besoin de comprendre pourquoi c'est important de tenir cet engagement précis. J'ai besoin d'être convaincue que c'est justifié de le faire. Et à partir du moment où je comprends pourquoi et où je crois quelque part dans ce pourquoi-là, où c'est quelque chose qui compte pour moi, eh bien, je vais tenir mon engagement sans aucun problème. Par contre, si j'essaie de m'imposer quelque chose qui me paraît arbitraire et qui me paraît pas justifié, ben c'est là que je vais pas le faire. Donc ça, c'est un exemple de comment j'ai personnellement utilisé les tendances de Gretchen Rubin pour m'aider à tenir mes engagements. Donc généralement, quand j'ai du mal à tenir un engagement, je reviens sur mon pourquoi. Pourquoi j'ai envie de le tenir, pourquoi c'est important pour moi. Et je vous invite vous-même à découvrir quelle est votre tendance et quelles sont les astuces qui pourraient vous aider si le cœur vous en dit. Ensuite, conseil suivant, appliquez ce que vous lisez ou ce que vous écoutez. On reparlera plus en détail de ça dans une émission future, mais je pense que nous sommes très nombreux et nombreuses à absorber du contenu, des conseils sous forme de livres, de podcasts, de blogs, de vidéos YouTube, etc. Et d'écouter ces conseils-là, de les comprendre, d'écouter de la part de plusieurs sources différentes autour d'un même sujet. Mais nous sommes aussi nombreux et nombreuses, et j'en fais partie, à ne pas appliquer ces conseils. Finalement, on va lire le livre, puis on va refermer le livre, on va passer à autre chose, et on va jamais concrétiser, mettre en action les conseils qui sont notés dans le livre en question. Et du coup, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'apprendre à passer à l'action. Vous avez lu un livre sur un sujet qui est un livre, évidemment, où ça s'applique, hein, où il y a des conseils sur comment améliorer telle ou telle chose. appliquez-le. Avant de passer au livre suivant, appliquez ces conseils-là. Évidemment, piochez parmi les conseils ceux qui vous paraissent pertinents, mais faites-le, passez à l'action. Parce que en fait, le fait de rassembler des informations d'ici, de là, etc., de réfléchir, de machin, au bout d'un moment, ça devient une forme de procrastination. Au départ, c'est très simple. Moi, je suis quelqu'un qui me renseigne énormément avant de faire quoi que ce soit. J'ai un esprit critique, enfin, j'aime à penser que mon esprit critique est aiguisé. Et j'aime me renseigner via différentes sources avant de me jeter tête baissée dans quelque chose. Donc, c'est très utile. Mais passer à un certain stade, ça devient de la procrastination de continuer à s'informer sans passer à l'action. Donc, je ne peux que vous conseiller, au bout d'un moment, de passer à l'action et d'appliquer concrètement dans votre quotidien les conseils qu'on vous donne. Enfin, dernier conseil, prenez une vraie pause. On rejoint le côté slow de simplicité avec ce conseil, mais au lieu de vous pousser trop loin et de finir par perdre la concentration, ne plus être productif du tout, ne plus profiter du moment si vous êtes dans un loisir et vous faire happer par une distraction ou une autre, et c'est là que vous perdez votre temps puisque quelque part vous vous laissez emmener dans une manière de dépenser votre temps qui n'était pas ce que vous aviez choisi de faire, au lieu de faire ça, prenez de vraies pauses dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année. C'est hyper important de prendre des pauses et je vous conseille de prendre votre vraie pause avec intention. C'est-à-dire, vous la notez dans votre agenda, vous la prenez en compte dans la quantité de tâches que vous vous mettez dans votre journée, vous la planifiez à l'avance. Et en fait, elle va être d'autant plus savoureuse parce que vous savez que vous l'avez planifiée. Quelque part, vous vous donnez le droit, quelque part, de prendre cette pause. Et vous savez que vous avez le temps de faire ce qu'il vous reste à faire dans la journée, et vous pouvez vraiment savourer cette pause, vous pouvez vraiment en profiter, vous pouvez vraiment ralentir, faire baisser le stress, et être d'autant plus donc productif ou productive si vous êtes dans des tâches de travail, et d'être d'autant plus présent ou présente à l'instant et à votre loisir si vous êtes dans un contexte de plaisir, de loisir, de famille, d'amis, etc., etc. Donc voilà, encore un conseil qui me paraît assez important et... qui j'espère vous parlera, c'est de prendre de vraies pauses et de vous les planifier à l'avance. Alors aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de ressources à partager parce que l'émission commence à être un petit peu longue, mais je vais vous mentionner 2-3 livres si ça vous intéresse. Donc si la notion de perception du temps vous intéresse, je vous invite à découvrir le livre « Le pouvoir du moment présent » par Eckhart Tolle. Vous apprécierez peut-être aussi la lecture de « Foutez-vous la paix » par Fabrice Midal. Et encore une fois, si la notion de tenir vos propres engagements vous intéresse, vous pouvez découvrir les 4 tendances de Gretchen Rubin dans son livre « Ma vie en mieux ». C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'écoute de cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux @floriteller ou à passer le mot à vos amis. L'émission Simplicité est mensuelle et vous retrouverez le thème de la prochaine émission dans les notes de celle-ci sur le site simple-cité.com/008. Dans ces notes, vous retrouverez aussi les idées principales abordées aujourd'hui ainsi que les ressources que j'ai citées. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine !